Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Dernière fin de semaine de juillet 2024, ici Alex Bergeon, et bienvenue au deuxième service de cette semaine depuis le 94.3 à Québec et CFAQ 88.3 à Sherbrooke, vos radios universitaires préférées. Toujours content de vous retrouver en cet été qui va se pouvoir maintenant. Un peu moins de canicule, mais toujours des températures chaudes. Et qui parle de températures chaudes, qui dit température chaude, dit également température les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète. Ça va bien, on lâche pas. Blague à part, c'était en début de semaine, 22 juillet, journée la plus chaude jamais enregistrée sur la planète. On bat ces records-là, plus l'année avance, à chaque jour quasiment. Tellement pas rassurant. Et ne serait-ce que le fait que ces températures chaudes-là s'accumulent. Ça fait également en sorte que des villes s'en viennent rayer de la carte tranquillement, pas vite. C'est le cas de Jasper, du côté de l'Alberta, qui aurait, en date de vendredi, brûlé à hauteur de près de la moitié, donc à hauteur de 50%, qui serait parti, endommagé, brûlé complètement de Jasper. L'armée canadienne arrivait vendredi matin pour tenter de donner un coup de main. Des températures chaudes, le peu de pluie qu'il y avait eu également dans les dernières semaines a évidemment contribué à ce que le feu se propage plus rapidement. Des résidents ont dû être évacués même parce qu'ils étaient prisonniers de l'espace et du moins les accès aux sorties de la ville albertaine étaient difficiles. On a eu droit également à Daniel Smith, avec les grosses larmes de crocodile cette semaine, qui pleurait la perte de ce si bel endroit de la planète. On avait tous des souvenirs d'avoir été plus jeunes, en vacances à Jasper et tout ça, et avec ses, comme je le disais, ses grosses, grosses larmes tristes. Daniel Smith essayait de faire pitié, comme elle le fait depuis quelques semaines, là, d'ailleurs, lorsqu'il y avait eu la rencontre également des premiers ministres de la province. Elle avait tenté de faire pitié, voilà, en disant que bon, les commentaires sur les réseaux sociaux envers une certaine droite pour essayer de ramener à la version canadienne de ce qui s'était passé avec Donald Trump. Fait qu'elle aussi, elle était victime de ces attaques-là sur Internet, que ce discours-là n'avait pas de bon sens, et tout ça, et tout ça. Quand dans les faits, oui, bon, Daniel Smith a beau dire que le gouvernement fédéral devrait en faire plus, devrait nous aider plus, bien que Jasper soit un parc fédéral, mais reste quand même que les services d'incendie, eux, sont provinciaux. Il n'y a pas de service de pompiers du Canada. Il y a peut-être la police montée, mais il n'y a pas les pompiers du Canada. Et Danielle Smith, elle, ben, elle a fait beaucoup de coupures dans les services incendies. Dans les dernières années, j'essaie de retrouver le montant, mais évidemment, il sortira pas directement en faisant la recherche. Et puis bon, ces coupures de financement-là dans les services incendies, ben, ça fait en sorte que on peut répondre un petit peu moins rapidement lorsque de gros incendies, par exemple, se déclenchent. C'est quand on dit que la priorité numéro un des conservateurs, c'est de rétablir le budget, couper dans tout, réduire au minimum. Ben, c'est ça que ça fait. Ça fait que Jasper brûle la moitié, quasiment au complet. Fait que, ben, en tout cas, une moitié sûre de Jasper ne serait plus. Évidemment, il reste à se rendre sur place pour faire le tour complètement et comprendre ce qui en est, ce qui en advient de la réalité du côté de l'Alberta. Mais c'est sûr qu'après ça, de dire oh, quel bel endroit, c'est tellement triste, nanana, c'est assez maigre. C'est assez maigre comme justificatif. Donc, outre le fait qu'on parle en mal de Danielle Smith sur les réseaux sociaux, de toute façon, elle n'est pas la seule, c'est assez généralisé. Pour à peu près tous les premiers ministres, voilà, ces coupures pour les services incendies en Alberta, évidemment, n'aident pas au fait qu'en ce moment, on est en situation de crise, l'armée est arrivée, bon, on donnera un coup de main certainement, mais voilà ce qu'il y en est pour la situation de l'Alberta. Parce que dans une autre idée complète, puisqu'on est à la fin juillet, 26 juillet, pour l'enregistrement de l'émission. Évidemment, c'est le début officiellement des Jeux olympiques de Paris. Donc, pour les 14 prochains jours, il y aura compétition du côté de la France, du côté de Paris. On a aménagé la plupart des points d'intérêt les plus importants pour devenir des sites olympiques. On jouera notamment au volleyball au pied du Trocadéo et de la Tour Eiffel. Il y aura des compétitions un peu partout, et bien sûr. Et comme si un malheur ne pouvait arriver seul, ben on a déjà on a déjà fait un petit peu moins bien parler. Équipe Canada avec le premier match de soccer qui opposait le Canada à la Nouvelle-Zélande, qui a d'ailleurs été remporté par le Canada 2-1. Comme c'est des tournois, on peut se permettre de commencer un petit peu avant le début des Jeux olympiques parce que comme il y a beaucoup d'équipes à passer, ça serait difficile de le rentrer dans le 14 jours. Donc, on débute un petit peu d'avance certaines compétitions. Le soccer en faisait partie. Il y avait-tu du tir à l'arc aussi la veille? Enfin, il y avait 2-3 compétitions qui étaient déjà commencées, mais l'essentiel sera à partir de samedi. Heure de Paris, nous autres au Québec, les émissions spéciales débuteront à 6 heures. Donc, certaines compétitions qui se déroulaient tôt le matin ne seront que diffusées sur ici, tout.tv, extra, mais qui éventuellement seront à la télévision également. Donc, attelez-vous, ceux qui aiment ça, ce sera le lancement se fera avec la cérémonie d'ouverture vendredi après-midi en rediffusion le soir même, à peu près en intégralité, mais quand même. Soccer Canada aurait, du moins, des assistants à la coach de l'équipe, aurait survolé le stade de soccer pendant la pratique de la Nouvelle-Zélande avec des drones. Et évidemment, ben, lorsque Nouvelle-Zélande a vu le tout, a posé des questions, demandé, c'est normal qu'il y ait des drones qui nous survolent, on fait enquête, l'équipe soccer, là je suis en train d'inventer un nom, mais l'équipe... mais l'équipe qui organise le tournoi a fait enquête, a posé la question, qu'est-ce que c'est ça? Et rapidement, on a identifié Équipe Canada comme étant les propriétaires des drones. Et comme justement un match allait avoir lieu entre les deux équipes, on a décidé de suspendre les assistants en tant que tels et de suspendre à ce moment-là Bev Pressman de ses fonctions, la coach de l'équipe de soccer. Malgré tout, c'est son bras droit qui a pris les rênes pour le tournoi. Ils ont remporté le match. Ça peut aller. Mais on apprenait tard en soirée jeudi que finalement, la coach Beth Frisman a été suspendue complètement de l'entièreté des restants des Jeux olympiques parce que justement, c'était louche et qu'elle était fort probablement au courant de l'espionnage en tant que tel. Il est fort probable que la sélectionneuse du Canada était au courant de l'espionnage, a admis le président-directeur général du comité olympien lors d'une conférence de presse vendredi matin. Nous sommes choqués et déçus. On est frustrés, comme tous les Canadiens, je crois. Lui, c'est David Shoemaker qui a qualifié cette décision comme étant l'ultime sanction que le comité olympique peut prendre. Il estime que la formation maintenant dirigée par Andy Spence mérite de poursuivre le tournoi. Je suis à l'aise avec l'idée parce que on essaie de se sauver les fesses le plus qu'on peut. Mais ça fait quand même ombre au tableau. Évidemment, c'est une décision complètement étrange faite par une personne. L'équipe ne semblait pas être au courant que des drones avaient survolé l'entraînement de la Nouvelle-Zélande. Donc, on se justifie de cette manière-là, mais quand même. Nous n'avons pas sacrifié nos principes malgré la crise. Nous devons envoyer le message que nous voulons gagner de belle façon. À plusieurs reprises, David Shoemaker a rappelé que son organisation allait faire preuve d'ouverture et de transparence malgré la tempête. Il est conscient que cette méthode pourrait ternir l'image du sport canadien, particulièrement du soccer, mais cela n'est pas notre moteur. Les dirigeants du comité olympique ne savent pas quelles conséquences pourraient découler des enquêtes de la FIFA et du comité international olympique. Voilà, c'était la FIFA. Je ne sais pas pourquoi je cherchais un autre nom, mais c'est bien la FIFA qui régit le tournoi. Est-ce que l'équipe canadienne pourrait voir sa médaille d'or aux Jeux de Tokyo retirée? Là, il ne faudrait pas charrier non plus, mais les disqualifier de ce présent tournoi, ça pourrait pas être complètement impossible non plus. Cette possibilité me rend malade de lancer David Shoemaker. J'ai mal au ventre, je l'ai dit souvent, mais cette médaille d'or était l'un de mes moments olympiques préférés. En parlant de 2021, mais encore là, pourquoi retirer la précédente médaille quand on est dans un autre truc, je ne sais pas. Le chef du sport du comité olympique, Eric Miles, n'a pas voulu partager plus d'informations pour ne pas nuire aux enquêtes du CIO et de la FIFA. De mon côté, on a pris les bonnes décisions, dis-je bien. À partir de maintenant, la responsabilité du tournoi est entre les mains du CIO et de la FIFA. On va se soumettre aux règles à la suite des choses, a-t-il dit, s'assurer que tous les athlètes qui le désirent puissent bénéficier de ressources en santé mentale. D'un coup, qu'ils soient affectés à propos de ce qui s'est passé. Bref, ça commence un peu drôle, on va dire ça comme ça. C'est un petit euphémisme, mais disons que niveau Canada, ça commence un peu étrangement. Beaucoup d'espoir de médailles aussi, beaucoup de retours, ne serait-ce que l'équipe masculine d'athlétisme, pas d'athlétisme, mais de... mon Dieu, j'ai épreuve au sol, mais c'est pas que ça. C'est de gymnastique. Voilà, l'équipe masculine de gymnastique est de retour aux Jeux olympiques. Il y avait l'équipe de basket aussi qui faisait un retour, si je ne me trompe pas, qui s'était qualifié, qui n'avait pas réussi de se qualifier en perdant une game l'année dernière aux précédents Jeux olympiques, mais cette fois-ci, ils sont là. On a également en natation synchronisée, en plongeon, beaucoup d'espoir en nage. Également en relais. André de Grasse, qui devrait être présent cette fois-ci également. Porte-drapeau, notamment. Le porte-drapeau masculin et André de Grasse pour la cérémonie d'ouverture. Et celle Maud Charon, c'est ça son nom, qui est la porte-drapeau féminine pour la cérémonie d'ouverture, qui devrait, du moins, toujours avoir lieu sur la scène, littéralement. Quelques documentaires ont été publicisée sur la mise en place de cette cérémonie d'ouverture, la toute première qui se déroule hors stade. Dans le cas de la France, on veut mettre ça sur la scène. Les athlètes qui seraient à bord de chaque navire pour se rendre jusqu'à la Tour Eiffel, justement, où ils prendraient place par la suite. Il y a des options secondaires si jamais ça ne pouvait pas se faire, mais reste à voir, là, c'est sûr, Jean du samedi, Jean du dimanche, vous savez complètement les punchs de cette cérémonie d'ouverture. Nous, c'est pas encore fait pour le vendredi, mais voilà, Maud Charron et André Degrasse, les porte-drapeaux canadiens pour la cérémonie d'ouverture sur la scène. Ça devrait. On s'arrête quelques instants, au retour, la suite de ce deuxième service sur les ondes de CFA 88.3 et de Chiz 94.3. Comment de bord qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAX, sur les ondes de Chiz. On a pratiquement terminé notre périple musical 2023 cette semaine, donc on est un petit peu moins loin, mais on priorise la musique de l'an dernier. Pour répondre à la question que je m'étais posée moi-même, Daniel Smith aurait coupé des dizaines de millions de dollars pour les programmes de prévention de feux de forêt. 1,4 million pour les équipes d'Ariel Raptac, same budget qui a coupé. Le budget était de 117,6 millions. En fait, était à 130 millions de 2018 à 2019. L'année suivante était coupé à 117. L'année suivante était rendue à 100,5, 100,4 l'année suivante. Donc, on était à quasiment 200 millions il y a à peine 5 ans et on est maintenant à un peu plus de 100 millions pour ce budget-là. Donc, ne soyez pas surpris, Jean de Jasper. Voilà pour ce qui en est. Sinon, autre gros dossier de l'autre côté de la frontière, et on est évidemment, bien sûr, extrêmement concernés parce que c'est de l'autre côté de la frontière. Dans un coup de théâtre, la fin de semaine dernière, Joe Biden annonçait officiellement qu'il allait finalement ne pas se représenter à la prochaine élection. Donc, il allait céder sa place à sa vice-présidente, Kamala Harris. La question avait été soulevée. Qui succéderait à Joe Biden? Dans ce cas-ci, on est allé pour la raison, pas pour la raison, mais pour le candidat le plus évident en la personne de Kamala Harris, parce qu'il l'avait quand même sélectionné il y a 4 ans pour être sa colistière, malgré que pendant les débats, Kamala Harris était la plus critique de Joe Biden. C'est quand même sur elle que le choix s'est arrêté, en faisant en sorte que Kamala Harris devienne la toute première vice-présidente des États-Unis. Donc, voilà, dans un coup de théâtre où Joe Biden annonçait que finalement, il allait se retirer. Les émissions spéciales d'information ont débuté. On a fait rentrer Anne-Marie Dussault à RDI le samedi après-midi pour faire des émissions spéciales. Christian Latrey est embarqué après ça. Fait que non, c'était le branle-bas de combat. Du côté québécois, ceci dit, TVA, ils sont ramassés avec Stéphane Bureau, mais bon, ça, c'est un autre dossier. Blague à part, tout ça, bon, là, le premier tweet qui avait été envoyé sur Twitter, n'en déplaise à Elon Musk, jamais personne ne va appeler ça X, ça reste quand même Twitter. Joe Biden annonçait qu'officiellement, il allait se retirer, que finalement, ça n'était pas l'envie qui manquait, mais bien pour des raisons des raisons logiques et qu'il allait passer le flambeau dans un autre message quelques minutes plus tard, qu'il approuvait, qu'il donnait son appui, voilà, à Kamala Harris pour lui succéder. Officiellement, la campagne devenait donc celle de Kamala Harris, donc Harris 2024. Et c'était pour le mieux, littéralement, parce que les donneurs au Parti démocrate qui disaient que tant que c'est Joe Biden, on arrête de donner de l'argent, et des gros donneurs, notamment la petite fille, ou en tout cas la succession de Walt Disney, qui est dans les plus gros donneurs du Parti démocrate, avait décidé d'arrêter de donner complètement d'argent. Évidemment, l'argent a recommencé à couler de ce côté-là. Mais dans cette fin de semaine-là, il y a eu un record qui a été atteint de donateurs pour la campagne de Kamala Harris. Et tranquillement, pas vite, l'idée fait son chemin. Ça fait une semaine maintenant. Quelques sondages commencent à paraître. Évidemment, c'est embryonnaire, mais dans plusieurs situations, dans plusieurs cas, il y a une tendance qui est complètement renversée. Évidemment, le vote féminin, il va en majorité à Kamala Harris, alors que lorsque c'était Joe Biden, c'était un peu plus égal avec Donald Trump, étonnamment. Le vote afro-américain, veut pas, il y a eu une petite montée du côté de Kamala Harris, évidemment une descente du côté de Trump. Le vote chez les 18-25, si je ne m'abuse, sinon c'est 18-30, mais le vote plus jeune, davantage du côté de Kamala Harris que Donald Trump, qui lui subit des pertes. Évidemment, le vote démocrate, lui, augmente avec Kamala Harris parce que plusieurs disaient qu'ils allaient soit boycotter l'élection ou qu'ils allaient voter pour l'adversaire. Évidemment, ça ne se fera plus. Dans les indécis, également, il y a une petite montée pour Kamala. Toujours pas tout à fait suffisant pour dire qu'elle est en situation confortable devant Donald Trump, mais elle commence tranquillement, pas vite, à creuser son avance. Là-dessus, évidemment, le camp adverse est en beau fusil, en beau maudit. Ça a pris 5 minutes dans un discours à Donald Trump avant de commencer à être désobligeant avec Kamala Harris, tu sais, son espèce de leitmotiv dans les derniers jours, c'était t'as failli mourir, tu devrais être plus gentil, puis c'est ça. Ça a duré 5 minutes et déjà, il était attaqué Kamala Harris en la traitant de niaiseuse et en disant que c'était une vidange, ni plus ni moins. Donc, ça sera pas propre comme campagne électorale. Déjà que ça ne l'était pas avec Joe Biden, déjà que tous les slogans républicains qui disaient « Votez pas pour le vieux, le vieux bonhomme, on n'en veut pas ». C'est drôle, ces slogans-là tendent à disparaître davantage maintenant que Donald Trump est officiellement le plus vieux candidat de l'histoire de l'Amérique à se présenter à une élection, étant donné que Joe Biden s'est retiré. Donald Trump, à 78 ans, devient le candidat le plus âgé, puisque Joe en avait 77, sauf erreur, à la dernière élection. Donc, c'est maintenant lui, le vieux bonhomme, qui se présente à une élection américaine. Beaucoup de chandails qui disait F Joe Biden vont devoir être liquidés dans les prochaines semaines. Donc, c'est le pire scénario pour les républicains qui devaient se présenter, que justement Joe quitte, même si ce n'est vraiment pas son idée. Ça, on peut s'en douter, ne serait-ce que dans son discours d'adieu, en quelque sorte, ou du moins pour expliquer pourquoi il allait quitter ses fonctions, qui a eu lieu, c'était mercredi. Un petit discours, dizaine de minutes, quinzaine de minutes, qui, résumait un peu les derniers jours, son adresse à la nation, qu'il a fait depuis le bureau ovale. Également, dans le monde de la complotosphère, ça n'a pas tardé à se déchaîner en faisant des montages sur l'heure de la monde de Joe Biden qui prouverait que ce n'était pas en direct, quand dans les faits, c'était bien en direct et que les vraies images montrent que la montre donne la bonne heure sur sa Rolex. Malgré ce que les complotistes voudraient, c'était bien Joe Biden qui s'adressait à la nation. Et puis voilà, dans ce discours-là, très émotif, de « j'aurais aimé pouvoir faire un autre 4 ans, mais la situation ne le sera pas. Tu sentais qu'il était plus ou moins d'accord, qu'il était ému, oui, mais tu sais que c'était pas son idée première. Et c'est un peu normal. Tu sais, c'est normal de pas vouloir passer le flambeau rendu à son âge, qui a un peu attendu toute sa carrière d'être le président. C'était une aspiration qu'il avait. Dans les nombreuses images qu'on a vues de Joe Biden, comme s'il était mort, mais qu'on faisait comme son récapitulatif de parcours de vie politique, ben il s'était présenté, c'était en 80, pour l'élection de 89, il s'était disqualifié pour avoir copié un discours, ou en tout cas, tu sais, il n'avait pas poursuivi. Il s'était présenté contre Barack. Évidemment, ben, il ne l'avait pas emporté, mais il était quand même devenu son vice-président. Fait que, tu sais, c'était comme la troisième tentative avec l'élection de 2020. Donc, qu'il l'a emporté, n'en déplaise à la complotosphère, qu'il l'a emporté et qui, bon, aujourd'hui, doit se retirer. Entre autres, parce que, justement, on se rend de plus en plus compte que, bon, c'est un vieux monsieur. Est-ce qu'il serait capable à 81 ans de se rendre à 85 en tant que président des États-Unis? La question était quand même assez... était déjà posée en 2020, mais là, rendu en 2024, avec le débat chaotique qu'il a connu, ça l'a un peu accéléré son départ. Et justement, le fait que l'argent... mène, veut pas, ces campagnes-là, ben, on n'a pas voulu prendre de chance et on a décidé de mettre dehors Joe Biden. Et semble-t-il que dans les dernières heures, vendredi, en tout cas dans la nuit de jeudi à vendredi, il y aurait eu un endossement de Barack Obama qui lui aussi aurait dit « Oui, Kamala Harris sera une bonne candidate. » Finalement, c'était comme le dernier ténor, le dernier membre important des démocrates à donner son approbation à Kamala Harris. Il l'aurait fait dans les dernières heures. Donc, tout le monde est maintenant derrière Kamala Harris et les autres démocrates également le sont. Donc, pour ça, ça regarde bien, à moins qu'il y ait un candidat surprise qui voudrait se présenter. Mais pour l'instant, tout le monde est derrière Kamala et on veut enclencher le processus le plus rapidement possible. On sera quelques instants au retour. La suite du deuxième service de cette semaine, vous écoutez le 88.3 CFAQ à Sherbrooke et Chiz 94.3 à Québec. Le couleur qu'on vient d'entendre en musique au 44e étage, Invisible Touch, tiré du dernier album de Le Couleur. Mini, mini précision. Je pense que j'ai dit 230 millions pour le budget albertain de Wildfire Management. C'était 130 millions en 2018 et rendu en 2024. On était rendu à 100,4 millions. Donc, la dizaine de millions qui a été coupée, c'était environ 30 millions de coupes budgétaires sur justement tous les services d'incendie pour protéger des feux en Alberta, ce qui fait probablement une très grosse différence en ce moment avec Jasper qui brûle du côté albertain. Voilà pour la correction. Bande-annonce tout de suite pour le film peut-être le plus vulgaire de l'été, mais qui est extrêmement satisfaisant. C'est Deadpool et Wolverine qui prenaient l'affiche cette fin de semaine.
Je te l'ai dit, on veut pas de toi ici. Et on veut de toi nulle part. Alors casse-toi de mon bar.
Donne-moi juste un dernier verre et je décampe.
Salut mon poussin. Fais-moi plaisir et viens avec moi tout de suite.
Écoute ma belle, je suis pas intéressé.
Ok, tic-tac, je suis un peu pressé par le temps alors. Allez hop, on y va. Oh, ok. T'as les griffes qui bondent mou. Ça arrive souvent aux Wolverine de plus de 40 ans.
Fous-moi la paix.
Si tu veux pas d'un deuxième trou de cul au milieu du front, t'as intérêt à me suivre.
Je suis sur le point de perdre tout ce qui compte à mes yeux.
Ça, c'est pas mon problème.
C'est ça que t'as dit quand tout le monde s'est retrouvé dans la merde!
Répète ça.
Ce Wolverine a complètement laissé tomber son univers.
Tu veux me parler de ce qui te tourmente ou tu préfères attendre la scène du flashback?
Ah, va te faire foutre.
Je ne sais pas comment sauver un monde. Mais toi, tu sais faire!
Crois-moi petit, je suis pas un héros.
T'étais un X-Men. T'étais le X-Men.
Ah ben j'ai mouillé ma petite culotte.
Les garçons sont tellement niaiseux.
Mais c'est de ça que je parle. La super méga grosse scène au ralenti. Qui sait si on survivra ou pas.
Allez, on fesse dans le tas.
Allez, on fesse dans le tas.
On se fait une petite ligne.
Arrête, la coke. C'est le seul truc que Disney nous a formellement interdit.
Si tu préfères, on peut parler de Blanche-Neige.
Ils connaissent l'argot, ils sont briefés, il y a des listes.
Je peux pas dire sucre en poudre.
Ni les gars de la narine.
Poussière de fée.
Même le talc, on peut pas.
Je voudrais un bonhomme de neige.
Moi aussi, mais non.
Je voudrais un bonhomme de neige. Oui, on a le droit de dire ça grâce à Disney. Donc, on l'entend dans la bande-annonce, c'est très vulgaire. C'est en québécois aussi pour quelques scènes, ben justement... celle qui dit « les gars sont tellement niaiseux ». Ça me déplaît pas. Il y en a qui disent « ouais, bon, ça aurait pu être encore plus internationalisé que ça », mais les doublages français ne se privent pas de dire « putain de merde ». Fait que pourquoi est-ce que nous, on s'empêcherait de dire « on va fesser dans le tas ». Tu sais, on a le droit, nous autres aussi. Fait que c'est complètement assumé. Voilà, donc Deadpool 3... Deadpool versus Wolverine, c'est violent, c'est vulgaire. Le quatrième mur est défoncé du début à la fin. T'sais, on l'entend un petit peu dans la bande-annonce. Wade, Ryan Reynolds parle constamment aux gens du public, fait justement des références à l'univers Marvel. Quelle œuvre voir avant de voir Deadpool? Grosse question, sans vouloir dévoiler de punch non plus. C'est assez difficile parce que, tu sais, les Avengers, c'était pas si pire. Pour avoir vu, pour voir le dernier Avengers, il fallait avoir vu les 23 films précédents. Là, dans le cas de Deadpool, comme justement la Fox a été rachetée par Marvel, le MCU, ben, ça ouvre beaucoup de possibilités. Donc, pour essayer d'être le plus vague possible, faut avoir vu tous les Marvel de la Fox. Ça peut être un bon point de départ, à part peut-être les Spider-Man. Spider-Man n'est pas tant référencé, mais sinon, tous les films avant 2012, fait qu'avant le MCU, pourraient être intéressants à revisiter. Tous les films ayant rapport avec les X-Men, aussi, étant donné que Hugh Jackman, Wolverine, est présent, ça peut valoir la peine. Même si on dévoile dans la bande-annonce que c'est peut-être pas tout à fait le même Wolverine, quoique, qu'on va retrouver à la fin de Logan, parce que c'est un petit peu difficile à la fin de Logan d'avoir un Wolverine. Mais, bref, tous les X-Men, tous les dérivés de X-Men peuvent être intéressants et tous les films avant 2009, 10, 11 peuvent être intéressants également pour arriver à Deadpool contre Wolverine, du moins les avoir peut-être en tête, ça peut être un bon point de départ. Il y a des easter eggs mur à mur et encore une fois, Wade va en accuser quelques-uns de faire comme « Ah, ça c'était dans telle affaire, ça c'était dans telle affaire ». Justement, pour se brancher au MCU, on retourne dans le TVA, donc on fait référence à Loki, saison 1 et 2. Oui, on est après les événements de la saison 2, effectivement. Donc, c'est le point de départ pour unir les deux univers du MCU. C'est pas ça plusieurs, et ça, c'est peut-être les premières critiques qui étaient les plus tièdes sur Wolverine. C'est sûr que c'est sur Deadpool Wolverine, c'est pas un scénario qu'on fait. Oh mon Dieu, il arrive ici, ça, revirement de situation, nanana, tu sais, il n'y en a pas beaucoup de ça, mais on donne plutôt dans les caméos, on donne dans les surprises. Si on est capable de les éviter, moi, la bande-annonce, je ne l'avais pas vue, puis je trouve que la bande-annonce finale, ça, c'était la première bande-annonce qui était parue, la deuxième bande-annonce dévoile beaucoup trop d'intrigues, et ça, c'est un choix extrêmement discutable de Disney d'avoir donné autant de punch dans la deuxième bande-annonce. Donc, essayez de l'éviter si vous voulez vous garder le plus de surprises possible. Mais dans cette première bande-annonce-là, bon, on dévoile plus ou moins de quoi a l'air le film. Fait que c'est pour ça que des fois, les bandes-annonces sont traîtres dans plusieurs cas. Il y avait une parenthèse avant le début de Deadpool, il y avait la parenthèse du prochain Alien, puis ça, c'était un cas de le film est au complet dans la bande-annonce. Fait que on sait déjà pas mal c'est quoi le punch, surtout que c'est Alien. Fait qu'on se doute un peu de quoi ça va avoir l'air dans l'espace. Bref, donc revenir à Deadpool. Ils font exprès. Tu sais, Ryan Reynolds est dans l'équipe de scénaristes. Ils font exprès pour être violents, pour tuer du monde, pour être vulgaire, parce qu'ils se disaient, on est racheté par Walt Disney, ils vont vouloir édulcorer, ils vont vouloir rendre ça acceptable, comme un autre film du MCU, comme un autre film qui appartient aux 50 autres productions qui existent de Marvel. Mais non, le ton de Deadpool est respecté justement parce que c'est violent, parce que ça dit des gros mots, parce que y a du sang, il y a beaucoup de sang dans certaines scènes. Fait que tu sais, on se prive pas de cette des deux premiers volets. Ça s'inscrit comme un vrai bon troisième volet. Ça prend deux secondes et il y a déjà une blague en ouverture de film. T'sais, le prologue au film est truffé de blagues. Et justement, le cas où Deadpool parle avec le public il est extrêmement présent. Mais ça prend deux secondes. Là. Ça dit « bon film » et ça ouvre sur un gag. Et c'est ça du début à la fin. Il y a des bons bouts aussi sérieux. Puis ça fonctionne. Les bouts sérieux fonctionnent quand justement il y a le dilemme des personnages, l'intrigue qui embarque un peu plus, la rencontre également avec un personnage un peu moins connu. Et ça, pour les fans des comics, ils vont retrouver énormément de clins d'œil à des personnages qu'on n'a peut-être pas vus dans les films de X-Men ou dans le MCU, que, ah oui, ces personnages-là sont là, ces personnages-là existent. Et justement, il y a des acteurs qui reprennent leur rôle de différentes franchises, de d'autres films. Et pour ça, ça vaut la peine. Tu sais, il y a beaucoup de caméos. Il y a des caméos qui sont complètement inutiles et c'est drôle aussi, juste pour ça. Parce qu'on accepte la proposition, parce que justement, dans l'humour satirique, Ryan Reynolds en fait sa marque de commerce à cette heure. Il y a beaucoup de clins d'œil. Il y a quelques punchs qui ont été vendus depuis, mais il en reste encore beaucoup. Là, si on est un peu loin des réseaux sociaux, si on fait pas trop de recherches, il y a énormément de surprises. Puis même, il y a des gens qui arrivent dans le film et qu'on fait « Ben voyons donc que cette personne-là est là. » Et des originaux, là, pas des copies, pas rien, là, des vrais de vrais qui sont là. Et tu fais comme un voyant qui est là pour 10 secondes de film et qui disparaît tout de suite après, juste pour le gag. Ça vaut complètement la peine de voir en salle, sur grand écran, Deadpool contre Wolverine. C'est violent, ça brise le quatrième mur, la playlist fait aucun sens, tu sais, Madonna. Mais c'est complètement justifié également. Plein d'easter eggs, puis les gens qui aiment pas les caméos pour faire des caméos vont être complètement fâchés. Ce qui est le but, évidemment, de Ryan Reynolds. Donc, ça vaut complètement la peine, complètement emballé par ce troisième volet-là. Wolverine contre Deadpool. Deadpool contre Wolverine, c'est maintenant en salle cette fin de semaine-ci. On s'arrête quelques instants, on retourne la conclusion de l'émission cette semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Merci de combien entendre avec Glyph sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Pour terminer l'émission cette semaine, bon, je le disais en ouverture, Barack et Michelle ont officiellement annoncé leur soutien à la candidature de Kamala Harris. C'est arrivé jeudi soir, 26 juillet au matin. 26 juillet au matin, une petite vidéo que Barack a publié sur son compte Twitter. L'ex-président a annoncé soutenir la candidature de la vice-présidente Harris à l'élection présidentielle de novembre. pour tenter de bloquer Donald Trump le plus possible. En début de semaine, Michel et moi avons appelé notre amie Kamala. Nous lui avons dit que nous pensions qu'elle ferait une fantastique présidente des États-Unis et qu'elle avait tout notre soutien, a déclaré Barack sur Twitter. En ce moment critique pour notre pays, voilà, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'elle gagne en novembre. Nous espérons que vous allez vous joindre à nous. Ça, c'est pour justement prouver que maintenant les démocrates sont à 100% derrière le même candidat, ce qui n'était pas tout à fait le cas avec Joe Biden, puisque justement le dernier clou dans le cercueil, pour ainsi dire, c'était encore une fois Barack Obama et Nancy Pelosi qui l'avaient enfoncé tous deux en se retirant tous les deux en disant que ouais, faudrait peut-être que tu te retires, Joe, là, ça serait peut-être le temps. Et voilà, ça a été le temps. Kamala devient maintenant la vraie... va devenir la prochaine candidate démocrate puisqu'elle doit être approuvée en août lors de la conférence... pas de la conférence, mais lors du Rassemblement des démocrates. Oui, c'est une conférence aussi. Donc, les représentants démocrates de chaque État devront se prononcer en faveur d'un candidat ou d'une candidate. Dans ce cas-ci, c'est Kamala Harris qui va l'emporter. Ce qui a fait en sorte que la gang républicaine, surtout, a inventé le terme de coup d'État au sens où les élites démocrates faisaient un coup d'État en tassant Joe Biden et en mettant Kamala Harris à la place et en faisant en sorte que les électeurs démocrates qui auraient voulu voter pour Joe Biden ne pourront pas le faire parce qu'ils se sont fait enlever leur candidat des mains. Ça, c'est une défense démocrate très étrange qu'ils ont décidé d'apporter, mais c'était bien évidemment dans un but de mettre le doute, de disqualifier un peu d'office Kamala Harris et tout ça. Et ça, c'est une certaine frange de la droite qui a répété ça de nauseam cette semaine. Du côté québécois, j'en parlais tantôt, Stéphane Bureau, qui a perdu beaucoup de lettres de noblesse depuis quelques temps, ben est allé également de ce même discours-là, tout en précisant qu'il choisissait bien ses mots, mais que c'était comme un coup d'État. Il est allé dire ça à la télévision. Et sans surprise, personne ne l'a confronté avec ses propos qui sont complètement problématiques, puisque ce n'est pas ça, un coup d'État. Un coup d'État, c'est ce qui est arrivé le 6 janvier 2021, quand des gens ont défoncé le Capitole pour essayer d'empêcher de mettre Joe Biden au pouvoir, de certifier les résultats en faisant un coup d'État. Ça, c'est un coup d'État. Et c'est pour ça que la nuance est importante, au sens où que la candidature de Joe Biden soit biffée pour mettre celle de Kamala Harris par-dessus, ce n'est pas un coup d'État. C'est un changement de stratégie, même si, oui, il y a des gens qui ont décidé de voter pour Joe Biden à ce moment-là, quand justement on a décidé de le sélectionner pour qu'il devienne le représentant quand on a demandé aux gens d'aller voter. Mais dans ce cas-ci, ça fait en sorte que les représentants démocrates ont le mandat de voter pour Joe Biden, mais comme il se retire et que le principal intéressé dit à la place voter pour Kamala Harris, on ne peut pas vraiment dire que c'est un coup d'État. Le coup d'État, oui, c'est peut-être que Joe Biden ne voulait pas laisser la place, mais ce n'est pas au sens où on a décidé de défier les lois et tout ça, parce que, semble-t-il, ça s'est déjà produit qu'un candidat se retire et qu'on doive passer au second sur la liste. Fait que cette rhétorique-là soit répétée par un commentateur ici, a fait en sorte que les commentateurs de d'autres chaînes, Charles-Philippe David, pour ne pas le nommer, de la chaire Raoul Dandurand, à RDI, l'a un peu mentionné de « ouais, coup d'État, c'est assez dangereux puis c'est assez niaiseux de dire ça ». Fait que il y a eu un bel échange entre médias cette semaine. Tu sais, c'est évidemment par médias interposés. Mais voilà, donc Stéphane Bureau qui s'entoure de plus en plus de gens de la complotosphère lui-même, bon, qui interview des Français qui disent n'importe quoi par rapport à la COVID et par rapport à autres trucs de ce genre-là et qui soudainement est devenu un expert de la politique américaine, mais quand dans le fond on se rend compte que c'est pas tant ça non plus son premier mandat. Donc malheureusement pour Stéphane Bureau qui s'appuie justement sur son passé sérieux, dit de plus en plus n'importe quoi et ça c'est très dommage. Donc voilà pour ça. Donc, est-ce qu'on est réellement dans un coup d'État politique? Non, pas du tout. C'est techniquement reconnu dans les règles démocrates qu'on peut changer de candidat. Fait que déjà là, c'est pas comme si on était rendu au moment de voter et que là, Joe Biden se faisait tasser pendant le vote final. On est à un mois et quelques de cette rencontre-là entre démocrates. Fait que ça, on ne peut pas appeler ça un coup d'État. Fait que justement, dans le choix des mots, d'essayer d'être respectueux ou d'essayer d'être modéré, ben coup d'État, c'est tout sauf modéré comme terme. Fait que faire attention à ce qu'on dit hein, à l'occasion. Puis ça, ben ça a été une belle occasion de faire attention. On s'arrête là-dessus. C'est déjà terminé pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Deuxième Service, ici même, sur les ondes de CFAQ 80.3 et de CHIZ 94.3. À la semaine prochaine. Salut.